capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, Okata oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens sur Radio Okapi avec l'intensification des combats entre les FRDC et les M23 près de Chacha au nord Kivu. Les États-Unis ont dans un communiqué publié ce lundi 5 février 2023 demandé à tous les groupes armés non étatiques à cesser les hostilités et à déposer les armes. Ils appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer immédiatement les forces armées rwandaises du territoire de la RDC. Pour sa part également, la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a déploré les attaques inacceptables ciblant les civils depuis l'intensification des combats dans le nord Kivu, a réitéré son appel au M23 à cesser les hostilités et à désarmer sans condition en respectant les termes du communiqué du 23 novembre 2022 adopté lors du mini sommet de Luanda. Comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Alain Goy est à la mise en nom de ce magazine. Jean-Marc Matoy qui assure la coordination, la réalisation au micro, c'est Marcel Ngomombala. À toutes et à tous. Excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs, mais également à ceux, comme d'habitude, qui se sont déjà inscrits pour réagir par rapport à ces sujets-ci. Vous êtes également intéressé pour réagir. Je rappelle le numéro des contacts, c'est les 081-890-63-30 ou les 081-890-49-69. Nous aurons, pour commenter ces sujets en ligne, Monsieur Christophe Basséaninanga, gouverneur de Haute-Uele, mais aussi le professeur Augustin Mouessi, le professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et chercheur à Research Connect d'IRC, il est déjà en ligne. Professeur Augustin Mouessi, bonjour.
Bonjour.
Merci, professeur, encore une fois, de nous rejoindre dans ce magazine Parole aux auditeurs pour parler de la situation à l'est de la RDC avec l'intensification des combats près du Chacha entre le FRDC et le M23. Les États-Unis, vous l'avez suivi certainement dans un communiqué publié ce lundi 5 février, demandant à tous les groupes armés non étatiques à cesser les hostilités, à déposer les armes. Ils appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à retirer immédiatement les forces armées rwandaises du territoire de la RDC. Et pour sa part également, avec l'intensification des combats dans le nord Kivu, la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a déploré des attaques inacceptables ciblant les civils et a réitéré son appel au M23 à cesser les hostilités et à désarmer sans condition en respectant les termes du communiqué du 23 novembre 2022 adopté lors du mini-sommet de Luanda. Alors dites-nous, professeur, comment analysez-vous cette situation?
Oui, en fait, la situation, elle est consécutive au nouveau développement de la région, un développement caractérisé par, en fait, les prises de position des différents acteurs, ou qui sont en fait, qui mettent en évidence le fait que les dialogues ou le processus qui était mis en place, notamment au niveau sous-régional, par différents acteurs des différentes organisations internationales, n'ont pas pu produire des résultats escomptés. Ces processus ont été, je dirais, ont connu une léthargie, pour ne pas dire, ont été suspendus. Je fais allusion au processus de Luanda, mais aussi de Nairobi, qui tentait de trouver en fait une solution négociée à la crise, mais lesquels n'ont pas réussi justement à convaincre les différents intervenants à accepter les logiques de la négociation. Et pendant que ce processus était suspendu, j'ai la faiblesse de croire que les différents belligérants ont essayé de réunir des moyens supplémentaires pour augmenter leur capacité de nuisance, et c'est ce qui fait aujourd'hui que les violences soient encore une fois au rendez-vous dans la région où les lignes sur les fronts bougent dans tous les sens, et cela au détriment des populations qui ne savent plus à quel fait se vouer.
Bah, déjà, on a parlé la dernière fois par rapport à la situation humanitaire qui continue à se dégrader suite à tous ces conflits armés, en tout cas tous ces affrontements dans la partie est du pays. Mais alors, avec l'intensification de ces combats entre les FRDC et le M23, vous pensez qu'il faut continuer à négocier, continuer à recourir à la voie diplomatique, ou bien il y a d'autres alternatives?
Oui, je suis tenté de dire, comme le pensent nombreux Congolais, que la RDC doit défendre son territoire, ça veut dire augmenter la capacité opérationnelle des FRDC, qui essayent de se battre tant bien que mal, et évidemment appuyé par les Wazalendo, les ralliés, les Wazalendo. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que si on ne peut pas avoir les résultats par la guerre, il faut regarder du côté des règlements diplomatiques. Puisque, comme vous le savez, avant que le chef de l'État ne prenne l'option de recourir, de privilégier l'option militaire, il était question pour le gouvernement d'essayer, le gouvernement avait présenté trois moyens, donc il y avait le moyen, n'est-ce pas, militaire, mais aussi le moyen politique et diplomatique. Et donc, je crois que si on n'arrive pas à faire la guerre, puisque la guerre engendre des violences, on peut essayer de regarder à certaines conditions, évidemment, puisque c'est vrai, dans l'option, la négociation, ça fait l'objet de beaucoup de critiques, parce que c'est pas la première fois que la RDC a essayé de négocier avec le Rwanda, et chaque fois que la RDC a négocié, cela n'a pas produit des résultats escomptés, ça n'a produit que des résultats éphémères, qui n'étaient pas durables. Donc c'est là que j'ai dit que s'il peut arriver que la RDC lève l'option de pouvoir privilégier l'option diplomatique, alors il faut qu'il y ait certains préalables, qu'on sache avec qui on va négocier, parce que ce qui se passe à l'Est, j'ai personnellement l'impression que le Rwanda n'est pas seul, qu'il y aurait aussi d'autres forces, des forces invisibles, d'autres acteurs invisibles qui appuieraient le Rwanda dans sa démarche. Et donc, en fonction de cela, je pense que si on doit envisager l'option diplomatique, il faut bien faire l'analyse du conflit pour savoir effectivement quels sont les différents acteurs, les acteurs visibles, les acteurs invisibles, puisque visiblement nous voyons les M23 avec à la tête ces leaders qui ne se cachent pas, qui s'affichent, dont le dernier est M. Nanga, mais il est fort possible que derrière ces acteurs, il y ait aussi d'autres acteurs qui jouent dans l'ombre, et je pense que tout processus de négociation, si cette option, au cas où cette option pourrait être levée, devrait partir justement d'une bonne analyse pour savoir avec qui on va négocier et sur quoi, puisque voilà. Ce qui est vrai, la souveraineté d'un État, logiquement, n'est pas négociable.
Voilà, professeur, on revient à vous, on vous garde encore à ligne. Nous avons le plaisir d'accueillir également, en tout cas, Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Christophe Basséa-Ninanga, gouverneur du Haut-Uele. Avec lui également, on va échanger par rapport à cette situation de l'insécurité à l'est du pays avec l'intensification du combat entre les FRDC et le M23, près de Chachoner, Kivu. Les États-Unis ont, par rapport à cette intensification du combat, les États-Unis ont, dans un communiqué publié ce lundi 5 février, demandé à tous les groupes armés non étatiques à cesser les hostilités et à déposer les armes. Ils appellent de nouveau le Rwanda à cesser de soutenir M23 et a retiré immédiatement les forces armées rwandaises du territoire de la RDC. Également, pour sa part, la chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a déploré les attaques inacceptables et ciblant les civils depuis l'intensification des combats dans les Nord Kivu, a réitéré son appel à M23 à cesser les hostilités, à désarmer sans condition en respectant les termes du communiqué du 23 novembre 2022 adopté lors du mini-sommet de Luanda. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 081-890-6330 ou 081-890-4969.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Monsieur Christophe Basséa-Ninanga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gouverneur du Haut-Uele. Merci d'avoir accepté de participer à ce magazine et pas aux auditeurs où nous parlons de l'insécurité à l'est de la RDC avec tout ce qu'il y a comme intensification des combats et les appels lancés pour la cessation des hostilités. Il y a notamment ces communiqués publiés par les États-Unis d'Amérique, mais comment vous analysez cette situation, d'autant plus que les hostilités ont repris alors qu'il y avait déjà un cessez-le-feu qui, en principe, devait être appliqué, mais qui, il faut le dire, est violé.
Oui. Le cessez-le-feu n'est pas la fin de la guerre. D'abord, je me range à la position officielle du gouvernement de Kinshasa. Et je soutiens toutes les positions que prendrait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le président légitime élu et qui représente le peuple congolais. Les communiqués des États qui viennent des États-Unis, d'autres États, ne sont que des invitations. Et notre combat, je pense, c'est celle qui est menée par les chefs de l'État aujourd'hui, qui tient à ce que la République démocratique du Congo demeure dans ses frontières héritées de autant de temps et qu'on ne souhaiterait jamais, même pas de perdre un seul mètre carré. Mais ce qu'il va falloir faire, et nous tous, c'est de créer un patriotisme, mais au-delà du patriotisme, nous devrions travailler. Le travail ici, c'est ce que les forces les armées congolaises font, mais au-delà des forces armées congolaises, nous devons travailler sur les désenclavements de cet espace. Tant que le pays ne sera pas interconnecté, les provinces ne seront pas interconnectées par route, les groupes armés y resteront, et ce sont des groupes hostiles qui auraient pu être pris en charge facilement avec la force de FARDC, mais qui a peine, n'est-ce pas, à arriver, n'est-ce pas, à endiguer cela à cause des routes. Cette guerre risque de perdurer à cause des tracés des routes. Donc moi, là, je propose une solution.
Oui.
Qu'on aille de Kisangani à Goma par route. Vous verrez que ces histoires finiront. Mais tant que nous serons là, en train de se battre, de dépenser autant de choses. Nous risquons de créer nous-mêmes des problèmes à cause de manque d'initiative. Parce que même dans la guerre, il a fallu que les gens travaillent pour le désenclavement de l'Est. Et ce qui a traité la sécurité vers l'Est, c'est plus le manque de connectivité.
Mais vous pensez, avec, c'est, vous avez dit, toutes ces milices et tous ces groupes armés qui opèrent dans cette partie du pays, il suffit de désenclaver, en tout cas, le route du côté de l'Est du pays, ça sera vraiment une solution miracle, une solution aussi facile que ça?
Oui, il est facile d'obtenir ces routes, c'est tout à fait battant, parce que il va falloir trouver une solution définitive. Oui. Et cette solution définitive oblige à ce que nous nous organisions sur le front de l'armée, oui, mais il va falloir au préalable que sur le terrain, qu'on mette des brigades, ce qui n'est pas difficile, c'est très facile même, qu'on mette des brigades pour tracer les routes, de façon à être à mesure de s'affronter corps à corps et à savoir avec qui on se bat. Là, c'est très, très capital. C'est un préalable. Et on nous a toujours pris, malheureusement, avec des solutions par moment qui nous sont coûteuses, mais qui ne nous permettront jamais d'arriver à la solution tant que la solution est comme telle. Donc moi, ma proposition, j'en ai six, j'en ai l'expérience de désenclavement. Je suis persuadé que d'abord, il faut enlever toute la cartographie ancienne des routes. Il faut tracer les routes à vol d'oiseau, entrer là où effectivement, les groupes armés se trouvent, ils sont accessibles, qu'on les voie, qu'on sache avec qui on se bat. Par moment, ils ne sont pas nombreux, mais comme ils sont en brousse, ils deviennent beaucoup plus nombreux, c'est imaginaire. Donc, moi, je propose que, d'abord, un, je soutiens le chef de l'État qui en a déjà fait assez et qui aura des moyens de le faire. S'il y a des entreprises congolaises ici, qu'elles se mettent à ouvrir les routes dans cette sécurité-là. Ils seront sécurisés par nos forces et les uns verront que c'est long. Or, c'est ça la solution. C'est un préalable qui nous permettrait à ce que nous puissions, n'est-ce pas, subjuguer de façon définitive ces problèmes. Les pays qui nous aiment réellement, ne peuvent pas sécuriser au niveau des intentions parce qu'on a vu comment les attaques des Hamas, n'est-ce pas, ont été prises en charge, non pas forcément avec Israël. On voit les pays du monde en train de se mobiliser pour ça. On a vu comment on est venu à la rescousse de l'Ukraine. Je ne pense pas que ce qui se passe au Kiev est supérieur à ce qui se passe en Ukraine. C'est peut-être même pas 1%. Donc, si réellement il y a des États qui nous aiment et qui veulent que nous soyons ce que nous sommes, je pense que c'est le moment de se montrer parce qu'on reconnaît les vrais amis pendant la difficulté telle que nous sommes en train de les traverser. C'est un très petit problème, peut-être même par la parole. Si aujourd'hui, ça serait la diplomatie, ces pays nous aimaient réellement, ils ne se mettraient pas seulement à des déclarations, à des manifestations d'intention. Ils essaieraient notre démocratie à s'asseoir, puisque nous venons de passer par les élections, et ils nous faciliteraient la tâche à pouvoir être réellement ce qu'ils nous assurent.
Ben justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je m'en vais par exemple lire cette réaction de Jérémy Mamba sur la page Facebook Parole aux auditeurs et il nous écrit ceci. Les choses deviennent délicates. Les États-Unis visiblement jouent le jeu du Rwanda, parrain de cette force négative que les M23. Si les Occidentaux qui ont l'habitude de jouer aux sapeurs-pompiers dans d'autres pays en l'histoire de l'Ukraine, qu'est-ce qui leur empêche de lever une option une fois pour toutes et sanctionner de manière exemplaire le Rwanda? Peut-on dire que le Rwanda est un arbre qui cache la forêt? Comment expliquer, lorsque la RDC se montre offensive au front, on appelle au cessez-le-feu, qui est victime, n'est-ce pas la RDC? Si les États-Unis ont contourné Saddam que représente Kagame, nous sommes en passe de vivre la balkanisation. Si la RDC n'ouvre pas l'œil et les bancs, les pays risquent d'être émiettés au nom des intérêts égoïstes. Le gouvernement congolais doit revoir sa politique diplomatique, dont c'est Jérémy Mwamba qui a réagi sur la page Facebook par les auditeurs. Et également, c'est la réaction de Crispin qui nous explique aux Occidentaux jouent à deux poids, deux mesures, non pas les injonctions à nous donner. Nous sommes un pays souverain capable de s'assumer, que notre gouvernement mette les moyens à la disposition de nos forces armées. Il y a également Kalo Kalonji. Bon, il y a beaucoup de réactions. On va les lire au fur et à mesure. Alors, je vous garde toujours en ligne, monsieur le gouverneur. Professeur Augustin Mouyessi, vous avez suivi le gouverneur Christophe Basséani-Nanga, gouverneur du Haut-Uele, qui lui estime que parmi les solutions par rapport à l'insécurité à l'Est, il faut absolument désenclaver à l'Est du pays. Qu'est-ce que vous avez un commentaire là-dessus, professeur Augustin Mouyessi?
Oui, sur le plan de la géopolitique, en fait, les voies, l'accessibilité ou la navigabilité de voies routières, c'est un élément important. Ça peut jouer en faveur ou à défaveur des groupes armés. Mais je pense que face à l'urgence de la guerre, l'urgence, à mon avis, c'est consisterait et qui serait plus rapidement faisable, ça serait de trouver des voies et moyens pour mettre fin à l'avancée des rebelles. Et à ce niveau-là, je ne pense pas que les routes, la navigabilité de routes soit un élément qui pourrait influencer directement leur avancée, puisque nous savons que pendant la guerre de Enéphar Lapdel, les routes étaient en mauvais état, mais ça n'a pas empêché justement à la rébellion de l'Abdel de conquérir l'Ituri, de conquérir Kisangani et même d'aller à Kinshasa. Moi, je pense que l'urgence pour le moment consisterait pour le gouvernement à pouvoir mettre sur pied une diplomatie, n'est-ce pas, agressive, qui permettait à ce que ce qu'on appelle le soft power, mobiliser un certain nombre d'acteurs au niveau international, pour les amener à plaider la cause de la RDC, exiger en fait que le Rwanda cesse de soutenir les rebelles du M23 et essayer de mettre la pression donc sur tout cela qui pourrait soutenir la RDC. Ça, c'est le travail de la diplomatie. Mais de l'autre côté aussi, il y a des efforts à mener du côté de l'armée également, puisqu'il appartient à l'armée de défendre le territoire national. Et donc, je crois que c'est à ces deux niveaux-là, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, que la RDC peut effectivement essayer de jouer pour pallier tant soit peu à l'avancée des rebelles qui met en fait cette avancée à difficulté la ville de Goma et qui met en péril les vies de nombreux citoyens qui sont en fait confrontés à des déplacements massifs.
Mais professeur, on n'arrête pas de le dire. En tout cas, les voies diplomatiques, on a vu avec le premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, il est passé partout où il fallait passer pour arriver à négocier par, en tout cas, voie diplomatique. Vous savez, vous avez parlé, on a parlé de ce mini-sommet de Luanda, on a également parlé des accords de Nairobi, mais apparemment, jusqu'à ce jour, il y a une certaine mauvaise foi de l'autre partie, notamment du M23 soutenu par le Rwanda. Et là, on se rend compte que, comme si la voie diplomatique a montré ses limites.
Oui, en fait, la diplomatie réussit, en fonction de l'évolution des rapports de force, mais aussi lorsqu'on part négocier avec l'extérieur, il faut y aller avec la contrepartie, n'est-ce pas? Puisque pour obtenir le soutien de certains acteurs, ils ont le soutien, ça s'achète aussi, ça se conditionne, il faut le conditionnement aussi psychologique, politique et pourquoi pas même économique pour arriver à avoir justement le soutien des différents partenaires. Pourquoi j'ai dit diplomatie? C'est parce que quand vous voyez le communiqué des États-Unis et même de nombreux chefs d'État de la région, ils insistent aussi sur la voie diplomatique. Alors, il appartient justement au gouvernement, au cas où choisissez cette option-là, de pouvoir creuser davantage pour savoir pourquoi les efforts diplomatiques qui ont toujours été entrepris n'ont pas produit des résultats et qu'est-ce qu'il faut encore faire, à quelle porte faut-il encore frapper pour trouver effectivement les vrais acteurs capable de puiser justement la dynamique diplomatique à travers de la République démocratique du Congo. C'est le travail de chaque jour que doit faire effectivement le ministère des Affaires étrangères et de tous les responsables qui sont à côté du chef de l'État et qui sont ses conseillers en matière de diplomatie, en matière de coopération. Et je crois que ça, c'est un élément, à mon avis, très important.
Voilà, professeur, on revient à vous. Alors, monsieur le gouverneur Christophe Bassène Enanga, vous pensez qu'après tous ces efforts déployés par le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas pour ce qui est du côté diplomatique, avec la mauvaise foi, il faut le dire, hein, de l'autre partie, le M23 soutenu par le Rwanda, vous pensez qu'il faut encore continuer c'est sur ce terrain diplomatique, monsieur le gouverneur Christophe Bassène Enanga?
Dans les deux sens, deux solutions, il y a des solutions diplomatiques qui accompagnent, en fait, la bataille sur le terrain. Oui, le professeur a dit que non, il faut réfléchir dans l'immédiat. Oui, dans l'immédiat, on croirait que, provisoirement, si on arrêtait l'avancée des rebelles de Goma, ça serait une solution. Or, ce n'est pas ça ce que le chef de l'État veut. Le chef de l'État veut que l'intégrité du territoire national soit établie. La diplomatie va toujours être là parce que vous verrez que, alors qu'Israël fait la guerre, il négocie de l'autre côté avec les rebelles ou les Hamas pour qu'on puisse échanger, n'est-ce pas, des otages. Ici, j'insiste, c'est un problème qui nous concerne nous tous et que nous devons en trouver une solution définitive et durable. Sinon, ça serait la même chose depuis que ça a commencé par l'Abdel et jusque là où ça arrivera, je ne sais, jusqu'à autant d'années, ça risque d'être pareil. Et il faut que nous, Congolais, nous puissions réfléchir une solution définitive. Et la solution définitive passe par l'organisation, mais aussi par la fermeté de l'État. La fermeté de l'État dans le sens que ces organismes, ces gens qui viennent pour nous donner des leçons de droits de l'homme, devaient nous laisser peut-être nous défendre parce qu'ils nous font confondre l'ordre public de droits de l'homme. Et chaque fois qu'il y aura confusion de l'ordre public avec les droits de l'homme, ça se créera ou ça favorisera, n'est-ce pas, la résurgence des individus qui vont croire que non, même s'ils faisaient ceci, puisqu'il y a les droits de l'homme, on les laisserait faire. Il faut que l'on donne tous les pouvoirs à notre armée, de pouvoir agir réellement. Imaginez-vous aujourd'hui les Hamas qui comptent autant de nombre de morts. N'est-ce pas? La riposte doit être proportionnelle et sans frais. C'est ce que le chef de l'État voudrait. Mais malheureusement, on a toujours à côté un conseiller qui dit non, ne faites pas comme ceci, ne faites pas comme cela. Mais moi, je pense que les demandes passées par le chef de l'État et le plus meilleur, s'il est soutenu par l'ensemble des Congolais, on y arrivera, même si on n'arrive pas tout de suite parce que c'est la guerre. Lorsqu'on s'y engage, il faut s'y engager avec toute la population. Et aussi, lorsqu'on s'y engage, il faut compter sur l'organisation. Et dans cette organisation, ça passe, c'est ce que je dis là, les désenclavements. Désenclaver la République démocratique du Congo, ce n'est pas une chose difficile. En une année, on peut le faire. Mais il faut maintenant qu'on se donne des stratégies et les moyens, nous les disposons. Ce n'est pas qu'il faut chercher de moyens ailleurs. Donc, il est seulement question que les gens se mettent au travail. Vous verrez que si le désenclavement est là, parce que le prof semblait dire que non, ça c'est long, oui, il faut établir les bons termes pour pouvoir asseoir quelque chose de durable. Si sur le plan diplomatique, d'abord, il faut complètement oublier qu'on gagnera cette guerre par des voies diplomatiques. Non. Nous ne gagnerons pas non plus les guerres avec les négociations internes avec les groupes armés. Il faut qu'à un certain moment, l'État refuse de faire des prisonniers lorsqu'il s'agit des insurgés, des gens qui craignent pour avoir des armes contre les pays. Non, ça, on ne peut pas faire des prisonniers parce que à chaque fois que nous faisons des prisonniers, d'abord nous n'avons pas de prison ces gens-là finissent par sortir et ils font des récidives. Donc les récidivistes, c'est ceux qui connaissent déjà nos faiblesses dans ce sens-là, rentreront pour prendre les armes et toujours nous faire la guerre. Et comment cette guerre est faite par nous-mêmes contre nous-mêmes. Donc, j'insiste, l'organisation interne avec une fermeté, c'est-à-dire il faut restaurer réellement l'autorité de l'État. Et cette restauration de l'autorité de l'État passe par ce que le chef de l'État est en train de promettre, que malheureusement, peut-être, il n'est pas compris. Je sais qu'il sera compris. Je sais que dans ce deuxième mandat, il sera compris et que les choses iront autrement et ça ira dans un bon sens. Mais quel espoir qu'ils ouvrent les négociations ou qu'ils ne les ouvrent pas, c'est pareil. C'est pareil parce que déjà, on sait que dans une telle situation, la diplomatie fonctionne toujours et lorsqu'ils ouvrent les négociations, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas non plus une force. De l'autre côté, l'organisation interne. Il faut qu'on arrive à s'autonomiser dans le sens de notre défense. C'est possible. Je suis convaincu que cela est possible. Et cette organisation, j'insiste et j'insiste encore, l'interconnexion provinciale avec des routes qui permettent à ce que là où les gens se signalent, que les forces de défense soient en mesure d'aller les traquer. Ça sera la moindre des choses pour nous donner la paix avant que les autres reviennent. Et d'ailleurs, ces gens-là qui prétendent nous imposer, ne viendront que si ils voient que nous avons l'initiative et donnent-nous pour que le ciel puisse nous aider. C'est clair, c'est très facile. Organisons-nous dans le sens que le chef de l'État est en train de nous dire là, malheureusement, il prêche, nous le suivons peut-être pas. Nous devons faire de notre mieux pour venir à son aide et faire en sorte que, effectivement, la République démocratique du Congo ne puisse pas chaque fois s'agenouiller, chaque fois pleurer, tout s'attaquer, gémir, pleurer, crier et toujours également lâche.
Mais monsieur le gouverneur, il y a également cette crainte avec tous ces combats, ces affrontements armés à l'est de la RDC. Vous savez tout ce qu'il y a comme conséquence de la situation humanitaire. Il y a d'aucuns qui estiment que, avec l'intensification des combats, avec l'option, en tout cas, de la guerre, d'affrontement, et cela va encore dégrader davantage la situation humanitaire. C'est ce risque là aussi qui fait craindre certaines personnes.
Bon, il faut pas suivre les gens qui ont peur, soit de la guerre. Il faut que les pays s'organisent pour affronter cela. C'est ça même le sens d'être un État. Et la guerre, oui, et quand elle arrive, elle a des effets collatéraux très néfastes, mais les hommes, les enfants du pays, les fils du pays, les vrais citoyens se mettent debout comme ceux-là qu'on considère comme des citoyens en Athènes. Et ils vont pour défendre leur pays. Les leaders doivent organiser les masses, non pas pour faire quoi que ce soit, si ce n'est d'abord l'organisation dans le sens de garder notre patrimoine commun, qui est la République démocratique du Congo, avec ses frontières héritées. Ça, c'est très important.
Voilà, 081-890-6330, 081-890-4969, ce numéro, si vous voulez réagir dans ce magazine, parole aux auditeurs.
Pour participer à parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bon, on va poursuivre cet échange avec dans ce magazine Parole aux auditeurs, avec quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook Parole aux auditeurs. La réaction de Roger Matiste qui dit « Le temps est venu de se prendre en charge, tant que nous mettons tout l'espoir dans les forces extérieures, nous risquerons de perdre la ville de Goma. » Selon les informations, Chacha est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Il est venu que le chef de l'État puisse mettre ses paroles en pratique et nos militaires soient beaucoup motivés. Voilà, là c'est Roger et Marcel qui nous a écrit sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Et également, L'ingénieur Ponsian, qui nous écrit depuis Mbujimayi, Kagame, mène la guerre par procuration des États-Unis et des Occidentaux sur les sols congolais, précisément à l'est du pays, pour piller nos ressources et finalement balkaniser notre cher pays, afin de s'y installer définitivement, que nous, les Congolais, ouvrons les yeux, unissons-nous et levons-nous pour combattre notre ennemi commun. L'envoyé spécial des Occidentaux des États-Unis, Paul Kagame, en s'alliant à la Russie et à la Chine, des partenaires pour restaurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le pays est en danger, nos agresseurs ne dorment pas et utilisent tous les moyens à leur disposition pour arriver à bout de leur opération spéciale. Il y a également Dieudonné Chilombo Sibangu qui nous écrit depuis Kinshasa. Comme je l'avais souligné dans l'une de vos émissions, il faut qu'il y ait l'intervention des médiateurs. Je suis content de cette intervention des États-Unis, mais au cas où il n'y aura pas de solution impérativement, la RDC doit agir par force, car trop c'est trop, ainsi même sans convoquer les deux chambres en congrès, la nécessité oblige de sauver la vie humaine. Également, cette réaction de Jacques Béfonga, de toutes les façons, la question de la sécurité dans un État est un domaine qui relève de la souveraineté nationale. Depuis le début des hostilités à l'Est par le rebelle du M23, La communauté internationale n'a pas joué, ne joue pas un rôle majeur pour mettre fin à la guerre. Par ailleurs, ces appels aux acteurs des atrocités de cesser paraissent stratégiques et ne sont pas efficaces. Les gouvernements congolais doivent prendre ses responsabilités en main pour résoudre l'insécurité à l'est du pays. Pour cela, il doit considérer cette situation comme une priorité des priorités et affecter ses ressources considérables au ministère de la Défense pour lui permettre de s'occuper suffisamment et efficacement de cette affaire, même pour déclarer la guerre. En outre, notre gouvernement doit porter ses choix sur des alliés internationaux tout comme régionaux, sains et efficaces pour de coopérations gagnant-gagnant. S'il nous faut tourner les dos américains en profit de risque pour l'intérêt de la paix, à l'Est, nous sommes d'accord. Encore cette réaction que je m'en vais lire rapidement, c'est celle de Michael Bolingo. Depuis des années, la RDC a perdu beaucoup d'hommes de valeur suite au Rwanda soutenu par le multinational et le monde connaît ça et malheureusement sourd d'oreille. Au moment où un communiqué vient de sortir des États-Unis, nous savons qu'il rendait soutenu en tout et pour tout par ses pairs les États-Unis. Nous allons observer les respects du dit communiqué pour ne pas participer au folklore diplomatique. Ces groupes armés doivent cesser, mais jamais la RDC va dialoguer ni céder un millimètre de son territoire, ni partager nos ressources. À part cesser le feu, les États-Unis doivent condamner le Rwanda ainsi que le seigneur de guerre pour éviter de récidive. Voilà autant de réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. On va poursuivre avec nos interlocuteurs. Vous avez suivi quelques réactions des auditeurs sur la page Facebook par aux auditeurs. Professeur Augustin Mouessi, qu'est-ce que vous en pensez? On fait signe que le professeur n'est plus en ligne, c'est plutôt le gouverneur qui est en ligne. Monsieur le gouverneur, vous avez suivi les réactions, en tout cas des auditeurs, des internautes sur la page Facebook par les auditeurs et ceux qui estiment que trop c'est trop. Oui. Et il est temps, même s'il faut déclarer la guerre au Rwanda, il est temps vraiment de le faire parce que la mauvaise foi est déjà démontrée de l'autre partie qu'ils ne veulent pas des négociations, mais il y a ceux qui estiment qu'également il faut absolument continuer par voie diplomatique jusqu'à ce qu'on se rende compte que décidément, en tout cas, l'autre partie ne l'attend pas de cette oreille.
Oui. Nous, malheureusement, par moment, je le regrette souvent quand je suis aux côtés de mes compatriotes, quand ils se réjouissent des simples communiqués, soit des États-Unis ou de la France, et ainsi de suite, et ils croient que c'est ça la fin de la guerre. Non. Vous voyez ce qui se passe, et je parle toujours par des comparaisons. Regardez ce qui se passe avec Israël. Par moment, les États-Unis disent, voilà, il faut changer de ceci, mais l'Israël force avec ses chars et il fait ce qu'il doit faire pour se défendre. Quand bien même, il y a à boire et à manger dans ce qu'il y a là-bas entre Israël et Hamas. Moi, je pense, à mon humble avis, que nous devrions normalement arrêter de nous réjouir à chaque fois qu'il y a un communiqué. Ce communiqué, c'est peut-être même, c'est ça le Valium, c'est ça le médicament qu'il faut endormir les gens. Et nous n'avons pas besoin de dormir maintenant. Nous devons être debout, faire le peu que nous pouvons faire et ne pas dire que non, voilà, si nous commençons le désenclavement, ça va nous prendre du temps. Non, ça ne prendra pas du temps et les sables sont d'accord. Il faut d'abord commencer parce que c'est ça la vraie solution. Il faut que nos forces armées soient à mesure de se déployer et d'être partout. Et par moments, c'est toute la communauté qui peut se déployer avec le moyen de communication pour être à mesure, n'est-ce pas, d'arriver là où se trouveraient les ennemis. Ça, c'est une solution sine qua non. Nous devons le commencer, nous devons l'intégrer dans la guerre. J'ai vu comment les pelles chargeuses ou les bulldozers étaient en train d'ouvrir les routes, bien sûr, sur les décombres pour que les chars ou les militaires se déploient à l'intérieur de Gaza. Donc, c'est ça la guerre. Donc, il ne faut pas qu'on minimise cela, parce que si nous osons minimiser, nous nous contentons de souhaits des autres, ou de communiquer, de condamnations, de Nations Unies ont fait ceci, on dit cela. Non, ça ne marchera pas. Nos amis vont se recruter parmi ceux qui auront de gros et bons intérêts chez nous. Ce sont ceux-là. Ils doivent arriver à avoir de bons intérêts chez nous, parce que le désenclavement va amener de gros intérêts, et que ces gros intérêts vont, n'est-ce pas, impliquer que non, les propriétaires de ces gros intérêts puissent aussi participer dans la sécurisation de notre pays. Tant que le pays est comme tel, c'est comme si nous l'avions livré, n'est-ce pas, entre les mains des autres, et que ce qui est prenable, qu'il soit plus proche. Bon, voilà, on nous fait la guerre comme on l'a fait là. Moi, je pense, j'insiste, et nous avons des remèdes pour ça par rapport au peu de temps, les 5 ans que nous avions passé, nous venions de passer dans les Hautes-Tuilées. Il est vrai que si nous nous mettons nous tous au travail, province par province, les routes qui seraient tracées partiraient, prenons de là où il y a les guerres, ou bien partiraient de là où il n'y a pas de guerre vers là où il y a la guerre, jusqu'à ce que l'interconnexion soit faite, nous serons en mesure, n'est-ce pas, de contrôler cette situation. Le problème de l'Est aussi, c'est cette situation de géographique, du lac, des montagnes, de tout ce qui est comme obstacle qui permet pas que donc, les gens fassent soit l'attaque ou la contre-attaque de façon beaucoup plus efficace. Il y a des difficultés énormes, nous devons le reconnaître, qui dépend, n'est-ce pas, de la situation géographique de cette partie du pays, mais nous ne pouvons même pas prétendre que ce serait un prétexte pour qu'on laisse là. Non, il faut mettre un mécanisme qui permettent à ce que l'État soit dans toute la partie qui lui avait été, n'est-ce pas, déjà cédée depuis la conférence de Berlin, parce qu'on n'a pas remis en cause. Sinon, un jour, nous allons réfléchir comme les autres, que nous puissions dire que, voilà, les limites ou les frontières de la République démocratique du Congo, ou bien que on peut commencer à réfléchir ainsi, que non, bon, voilà, les frontières de la République démocratique du Congo n'ont pas de fin. Il faut qu'on arrive aussi à réfléchir ainsi. Et cela est possible, mais ça demande de l'organisation interne. Et ça demande de l'organisation dans le sens, oui, diplomatique, mais aussi d'attirer les investissements qui sont en l'intérieur. Puisque s'il n'y a plus rien de valeur et qu'il n'y a que les mines que les gens vont aller chercher, bon, ils vont se tracer les routes comme la fameuse route d'exploitation de l'or dans les Hautes-Tuilées. Nous avions dit et on dénonçait cela aussi, n'est-ce pas, que l'or qui est exploité dans les Hautes-Tuilées n'est pas connu. Moi-même, en tant que gouverneur, je n'ai jamais vu l'or produit par Kibali. Ça, c'est encore des faiblesses. C'est des faiblesses énormes pour nous. Là où nous sommes, nous pouvions contrôler, mais nous participons impuissants, très impuissants à l'exploitation de l'or, là où l'État existe, mais sans pour autant exister. Nous jouons le figurant dans le sens que tout ce qui se fait dans la mine, c'est même Vatican à l'intérieur de l'Italie, je pense que les visas sont quand même obtenus. Donc c'est des choses qui sont par moment, à nous dire, à nous remettre à cause et à nous mettre à réfléchir nous-mêmes, mais à mettre sur place des stratégies qui permettent à ce que, en tout cas, les choses ne se fassent pas comme ça se fait là. Parce que ce qui se passe à l'Est n'est pas différent, je pourrais dire, bien que par la guerre, de ce que moi je vis dans le Haut-Tuéré, en tant que gouverneur, que je fasse 5 ans, que je n'ai jamais rien vu de ce qu'on exploite dans ma province, et que je ne sais pas ce qui sort et ce qui entre, donc c'est comme tel, l'aéroport dans la mine, donc c'est des choses que nous vivons, alors que bon, on pourrait, oui, aujourd'hui, tous les yeux sont braqués vers l'Est. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Parce que cela peut nous rattraper, nous tous, et ça ne sera pas bon.
Justement, vous l'avez dit à monsieur le gouverneur, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui doivent être réorganisées dans ce pays. Alors, on va poursuivre avec les auditeurs. Nous avons François Okundji qui nous appelle depuis Lebo, et puis Peter Maboudi qui est à Kinshasa. François Okundji, bonjour.
Le chef de la prime Marcel, bonjour à son excellence, monsieur le gouverneur des provinces. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole, on vous écoute.
Merci bien, monsieur le chevalier de la prime. C'est comme je l'ai toujours parlé, posté dans vos pages Facebook. J'allais dire ici que les problèmes de l'insécurité dans la partie est du pays étaient un soubassement électoral, attirant l'attention exclusive des souverains primaires qui s'est déjà fatigué de cette guerre par les candidats présidents de la République. D'où celui qui est élu doit y mettre fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous avons vu plusieurs candidats présidents de la République. À ça, députés nationaux, députés provinciaux, qui est de l'insécurité du pays, faisant leur apologie pour le rétablissement du pays. Bien sûr, aujourd'hui, le chef de l'État est réélu. Il y a des gouverneurs qui sont en fonction, bientôt d'autres qui viendront d'ici le 7 avril 2024. Mais toutefois, ici, j'ai lancé un SOS au président de la République, chef de l'État, qui gérera mes hommages les plus différents, de mettre fin à la guerre. Toutefois, en accélérant la mise en place d'un gouvernement responsable et requis à prendre des décisions idoines. D'accélérer aussi à l'ensemble, au Parlement, de mettre un bureau définitif pour prendre des dispositions qui doivent permettre à ce qu'on puisse aller en guerre contre l'Est. Donc voilà un peu ma contribution, et c'est vrai de la plume, c'est que demander au président de la République de respecter son apologie lors des élections du 20 décembre 2020.
Voilà, merci à François Okundji. Depuis les beaux, Peter Maboudi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité, le gouverneur de province, ainsi que tous les services de la radio Capi.
Vous écoutez, vous avez la parole.
Oui, merci monsieur Marcel. J'ai bien suivi les deux invités, surtout le point de vue du gouverneur, avec lequel vraiment je partage totalement son point de vue, parce que monsieur Marcel, le désenclavement de notre pays fait partie des problèmes de l'insécurité que nous vivons. Tant que le pays sera enclavé plutôt, c'est ce que nous aurons toujours des petits problèmes de sécurité et également aussi de l'exode rural. Je reviens par rapport à la situation de l'Est, M. Marcel. C'est un problème vraiment qui touche à cœur de tout Congolais qui se sent être fier d'être Congolais et qui est vraiment qui a les soucis de ce pays. Massacrer, la vie humaine est sacrée. Je l'aurais dit dans une des émissions que la vie est sacrée dans la Constitution. Également aussi, nous qui avons accepté d'être appelés chrétiens, nous voyons que la vie est sacrée de par la créature, notre créateur. Je crois qu'il est problème de prendre des décisions. Je pense qu'il est temps pour le moment. Le président Tshisekedi dit avant, dans son premier mandat, M. Marcel, je crois qu'il était encore perplexe par rapport à la légitimité qu'il devrait avoir du peuple congolais. Mais à l'issue de ces élections, où le peuple congolais s'était mobilisé derrière lui pour porter haut et fort sa voix, il est temps qu'il s'assume en tant que président de la République en prenant des décisions courageuses. Il a le soutien de sa population, de l'ensemble du peuple congolais. Et je crois qu'il est temps. On ne peut jamais gérer la situation sécuritaire, M. Marcel, avec complaisance, avoir la peur. Non, on doit s'assumer. Emery Patrice Lumumba nous a laissé un message, pour surtout moi, parce que je fais partie de ceux qui lisent l'histoire de ce pays, qui font des recherches de l'histoire du pays. Je crois que le message que Patrice Emery Lumumba nous avait laissé, c'est un message fort de réécrire notre propre histoire. Et il est temps d'écrire notre propre histoire à partir de la situation de l'Est en prenant des décisions courageuses sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Les Congolais n'ont pas d'amis, si ce n'est que nous-mêmes. Nous n'avons pour amis que nous-mêmes, Congolais. Mais il est temps de nous organiser, comme le gouverneur l'a dit. Si nous ne sommes pas organisés en interne, nous ne savons pas prendre des décisions courageuses face à nos problèmes que nous avons. Qui viendra à notre secours? Il y a eu l'appel de l'EAC qui était à l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Aucune. Et aujourd'hui, nous en avons appelé la SADC. Nous avons suivi les réactions des pays qui font partie de la SADC. Donc, nous n'avons pas d'amis, M. Marcel. Et par rapport à cette situation, je pense que sur le plan diplomatique, il est temps de nous rallier à certaines puissances qui seront sincères vis-à-vis de nous. Les États-Unis, aujourd'hui, ils appellent, ils demandent, quand un État, États-Unis, par rapport à l'ancrage des États-Unis, appelle les Rwandais de retirer sans aucune sanction, M. Marcel. Alors que les Rwandais et tous les États du monde sont régis par les traités des Nations Unies. Et quand est-ce que les États-Unis et le Conseil de sécurité prendront des décisions ou des sanctions vis-à-vis du Rwanda? Appeler le Rwanda, pas de communiquer. Est-ce qu'on peut agir de la sorte? Quand la Russie, la guerre qui a entre Russie et Ukraine, aujourd'hui la Russie a subi des sanctions. Quand bien même la puissance de la Russie a fait que ces sanctions-là ne puissent pas se faire sentir par rapport à la puissance de la Russie. Aujourd'hui, les États-Unis appellent le Rwanda. Et également aussi, la représentante de la MONUSCO nous ramène à avoir aux accords de Luanda. Monsieur Marcel, alors que les accords-là n'ont pas encore d'effet sur le terrain.
Voilà, merci. Les
États-Unis sont attaqués. C'est la force onusienne qui est attaquée. Cette force onusienne ne fait absolument rien. Appelle les retraits de ces.
Merci Peter Mabudi. On a compris, le Congolais doit se prendre en charge. Merci à Peter Mabudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. Rapidement, j'ai eu cette réaction de Clément qui nous écrit depuis le territoire de Lobo. L'État congolais doit vite réagir et par contre déclarer la guerre contre les pays agresseurs relativement aux notions de relations internationales. Faute du quoi, nous nous retrouverons dans un État qui ne fait que souhaiter des tueries de ses dignes fils et filles. Le communiqué l'a dit clair, sans États-Unis ne sont qu'une distraction sur laquelle les gouvernants congolais doivent faire une sourde oreille. Voilà, ça c'est Clément Chabat depuis le territoire de Lobo dans la province du Kasaï. Voilà, on va rapidement accorder la parole à notre invité, le gouverneur Christophe Bassian Enanga, et puis on va conclure. Voilà, vous avez suivi monsieur Christophe Bassian Enanga, vous avez suivi le tout dernier intervenant qui vous a encouragé dans vos propos, notamment pour ce qui est de désenclaver l'Est de la RDC. Ça peut être une des solutions face à l'insécurité, mais aussi, vous l'avez dit, il faut continuer la voie diplomatique tout en faire en sorte que notre armée puisse monter en puissance. Monsieur le gouverneur.
Oui, effectivement. Moi, j'aimerais même donner toujours des propositions et des solutions qui ne dépendent que de nous. Jamais de l'extérieur, parce que pour que l'extérieur vienne, nous devons prouver que nous sommes ce que nous sommes, parce que même Jésus, pour opérer des miracles, il a fallu l'initial. S'il n'y avait pas de poisson ce jour-là, de Dieu, s'il n'y avait pas quelque chose, je ne sais pas si Jésus à ce moment-là ferait quoi. L'initial, c'est ce que nous devons faire avec ce que nous avons. Or, l'initial que nous avons est déjà significatif. Je propose pour le désenclavement, on considère d'abord la République démocratique du Congo, quelle que soit la subdivision des provinces, comme une seule nation. Et lorsqu'on veut développer l'État-nation ou l'esprit nationaliste, on doit faire en sorte que non, les richesses qui sont dans le pays profitent à tous les citoyens qui se retrouvent dans cette juridiction-là reconnue internationalement, oui. Que non, voilà, la République démocratique du Congo.
Voilà.
Un moment, excusez-moi.
Ouais, on est à la fin, monsieur le gouverneur, juste un petit mot en 30 secondes, un petit mot en 30 secondes, oui.
C'est justement ce que je suis en train de dire et je propose, c'est très important parce que...
Mais on est déjà à la fin, comme vous l'avez dit, il faut qu'on fasse tout pour qu'on devienne une nation désolée. Vous avez sincèrement déjà dit l'essentiel et il y a même des auditeurs qui vous ont encouragé. Monsieur le gouverneur, peut-être on pourrait revenir prochainement, on est déjà à la fin, désolé.
Non, pas de problème. problème.
Voilà, merci beaucoup Christophe Bassian Inanga. Je rappelle que vous êtes gouverneur du Haut-Uele. Nous disons également merci au professeur Gustave Mouessi, professeur des sciences politiques à l'Université de Goma et chercheur à Research Connect d'IRC. On a connu quelques soucis avec sa ligne téléphonique. Fin de ce numéro des paroles aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Lengoy qui est à la mise en onde, à Diomi, Stanislas, qui l'a réalisé, coordonné au micro. C'était Marcel Ngomobala. À très bientôt dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.